Quant au grand-père qui bougonne dans sa barbe, c'est le basson grondeur.
Ce qu'il y a avec le basson, c'est qu'on a l'habitude de voir cet instrument qui a un galbe magnifique au milieu de l'orchestre, plutôt dans les rangs du fond avec les bois.
J'ai donc dans les mains le grand corps, ce qu'on appelle le grand corps et la petite branche, et je les mets ensemble. Et là, on a une petite goupille, là, et alors je vais faire entendre le bruit de la... Voilà, les deux parties sont connectées maintenant. Ça, c'est un basson un petit peu haut de gamme, on peut dire, donc on emploie l'argent, quelquefois ça peut être l'or. Ça, ce sont les options principales.
C'est la langue qui vient donner des coups sur l'anche pour articuler.
La série musicale Zoé Sfez.
Bonjour à tous, nous sommes ensemble en direct sur France Culture, ça c'est toujours aussi bon, pour une émission toujours libre de tous les styles, de toutes les provenances, de tous les sons. Ils seront riches, ils seront boisés d'érable ou de palissandre aujourd'hui. Une heure de radio sur la musique et en musique, c'est la série musicale, bienvenue. Et nouvel épisode aujourd'hui de notre série consacrée aux possibilités finies ou infinies d'un seul instrument. On a déjà exploré tout ce que pouvait la trompette, l'orgue, la clarinette. Et c'est sur la voix si singulière du basson que vous entendez sous ma voix, un basson baroque manié par l'inimitable Sergio Azzolini en l'occurrence, que l'on va se pencher ce dimanche. Très étrange silhouette que celle de ce basson qu'on connaît, mais en fait pas si bien, qu'on comprend, là non plus pas tout le temps assez bien, et dont le son est pourtant si riche, si caractéristique, si profond, quelque peu éclipsé par les stars de l'orchestre que sont les clarinettes, le hautbois dans la musique classique, et peu présent finalement dans la musique dite moderne, à cause de la suprématie, notamment dans le jazz, de son cousin cuivré, le saxophone. Le basson, dit aussi fagot en anglais ou en allemand, mérite pourtant de se voir accorder ici une première place que quand on lui donne, il s'est très bien occupé. Petite ode aujourd'hui fatalement subjective et comme toujours absolument pas exhaustive au basson sur France Culture.
Tout à coup, grand-père apparut. Était mécontent de voir que Pierre avait quitté la maison. L'endroit est dangereux. Et si le loup sortait de la forêt, que ferais-tu ?
Du grand-père dans le génial conte musical de Sergueï Prokofiev. Pierre et le loup, qui introduit à peu près tous les petits-enfants aux instruments de l'orchestre, dans une version ici superbe, enregistrée par l'Orchestre National de France, dans les murs de la Maison de la Radio. C'est peut-être à lui, à ce conte de Prokofiev, mais aussi à cette voix, cette silhouette du grand-père, que l'on doit cette vision un petit peu pas si flatteuse que l'on a du basson, le grand-père avec sa voix grave, un peu maussade, son pas un peu traînant, un peu boiteux, qui concorde finalement avec la silhouette très étrange, disons-le, du basson. 1,30 m, c'est un instrument extrêmement imposant, souvent en bois d'érable ou de palissandre, avec ce très long tuyau replié sur lui-même, et que le bassoniste, celui donc qui joue du basson, tient non pas face à lui, mais sur son côté droit, c'est-à-dire un peu, entre guillemets, de guingois. Et pendant qu'il souffle dans le système de hanche double du basson, le bassoniste le fait grâce à ce petit tuyau qui est relié au corps de l'instrument et qui est un petit tuyau courbe qui a presque la forme d'un point d'interrogation. Une forme à la fois jolie et un peu drôle, voire comique. Le basson, c'est ce personnage un peu discret, un peu rigolo de l'orchestre, on le surnomme parfois le clown. Et c'est sur cela d'ailleurs que le russe Prokofiev s'appuie pour donner au basson le rôle du grand-père dans le conte. Dans deux des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature russe, on trouve d'ailleurs des personnages de romans qui sont associés au basson. Il y a dans La perspective Nevsky, véritable chef-d'œuvre de Gogol, le héros du roman qui est fou d'amour pour une jeune fille et qui découvre plus tard dans le livre qu'elle est en réalité une prostituée. Il va sombrer dans l'opium pour oublier son malheur. Et dans l'une de ses dernières visions, avant de sombrer, il entrevoit une silhouette étrange, je ne sais quel fonctionnaire, qui prend l'aspect d'un basson. Dans un autre chef-d'œuvre de la littérature russe, Le Maître et Marguerite, de l'immense Mikhaïl Bulgakov, l'un des personnages les plus étranges du livre, qui s'appelle Koroviev, est surnommé justement le basson, the fagot, puisqu'il est lui aussi très obscur, très singulier, et que dans ce roman faustien, ce personnage donne la sensation d'être relié aux réalités les plus troubles, les plus organiques du monde, un peu à l'image de ce que fait le basson quand il vient ouvrir l'une des pièces, disons-le, les plus étranges du début du siècle, le Sacre du printemps d'Igor Stravinsky. Le basson en majesté, très inquiétant dans cette adoration de la terre qui ouvre le sacre du printemps d'Igor Stravinsky. Ce sacre du printemps, probablement l'une des pièces musicales qui a fait le plus scandale à l'époque de sa création à Paris. Pièce dans laquelle Stravinsky fait entrer brutalement sa musique dans la modernité en revendiquant des principes, je cite, résolument anti-symphoniques. Est-ce que c'est parce que justement il veut être anti-symphonique que Stravinsky choisit de confier l'ouverture de sa pièce au basson et qu'il lui fait jouer aussi au plus haut de ses possibilités? Car en ce début de XXe siècle, le basson, qui couvre pourtant déjà et toujours aujourd'hui 3 octaves, n'est pas si souvent mis au premier plan. Et on n'exploite pas absolument toutes ses possibilités, du moins, en tout cas, c'est l'impression inconsciente qu'on en a en écoutant la grande musique symphonique du XIXe et du XXe siècle. Impression mystérieuse, puisqu'elle n'est probablement pas juste, comme nous le dit le bassoniste Alexandre Zounov.
Je suis pas tout à fait persuadé que les longueurs de solos de basson soient plus courtes que celles du hautbois ou de la clarinette. Mais c'est vrai que l'instrument est peut-être difficilement manipulable sur la longueur au sein d'une œuvre symphonique. Je sais pas, peut-être.
Pourquoi? Il y a des problèmes de souffle?
Non, aucun problème de souffle. Simplement, c'est dans la préoccupation d'architecte, du compositeur, que de soutenir une attention musicale au travers d'un timbre comme celui-là n'est peut-être pas suffisamment satisfaisante. Je sais pas. Néanmoins, il y a quand même des solos magnifiques. Bon, on va pas penser au sacre, mais il y a plein de phrases, belles phrases très expressives qui sont confiées au basson, un peu courtes effectivement, mais je ne sais pas à quoi c'est dû.
Thank you.
un chef-d'œuvre russe, lui encore, hein, interprétation musicale géniale par le grand Rimsky-Korsakov du mythe de Scheherazade. Ici, la pièce commence par la voix de la princesse arabe qui est symbolisée par la harpe, fatalement délicate et aiguë, qui commence un de ses premiers récits. On est évidemment dans une adaptation des Mille et Une Nuits, récit qui est repris immédiatement par le prince Calander. Et le prince Calander ici est interprété par le basson. Et il commence lui aussi sa petite phrase qui va se propager finalement progressivement à tous les autres pupitres de l'orchestre, qui est repris donc par le hautbois, puis par les cordes, puis par tout l'orchestre. Vous l'avez entendu, hein, ici le basson n'a absolument rien de comique puisqu'il incarne la voix du prince, une voix séduisante, une voix noble, avec ses timbres boisés qui apparaissent ici très sensuels, voire évidemment charismatiques, autoritaires. Donc une très belle phrase pour le basson dans ce Scheherazade de Rimsky-Korsakov qui a donné des sueurs froides à pas mal de bassonistes. Une très belle phrase mais un peu courte, comme le disait le bassoniste Alexandre Zonov. Et pourtant, il y a de la noblesse dans le basson et à cette noblesse, on a fait une très large place dans son histoire puisque cet instrument a des origines qui remontent probablement comme tous les instruments avant à l'Égypte ancienne où on trouve pas mal d'instruments à hanches qui sont très certainement les ancêtres de quasiment tous les bois, du basson au hautbois bien sûr. Et c'est plutôt un instrument au nom très doux qui serait l'ancêtre du basson, la doucenne, dite aussi dulcian ou dulcienne en anglais. Instrument avant qui a une belle cote pendant la Renaissance, elle a déjà une hanche double et elle a une perce conique qui est repliée sur elle-même. Elle a beaucoup de succès, en tout cas au moins du 15e au 17e siècle, puisque Bach va continuer à l'utiliser assez tard. Mais c'est finalement à l'âge baroque qu'un facteur français, ou en tout cas une famille de facteurs français, la famille Haute-Terre, invente de manière peut-être résolument volontariste une version bien plus moderne de la doucenne, en ayant cette idée déjà de relier deux tubes en parallèle pour rendre l'instrument plus maniable. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui dans le basson moderne, qui ajoute deux perces supplémentaires, alors que, on le rappelle évidemment, à cette époque-là, le système de clétage qui est inventé beaucoup plus tard n'existe pas encore. Les instruments sont donc beaucoup plus difficiles à manier. Mais c'est quand même à cette époque, vers les années 1680, début du XVIIIe siècle, que le basson va connaître un essor considérable, notamment grâce au prêtre roux de Venise, l'immense Antonio Vivaldi, qui va se passionner véritablement pour cet instrument, écrire pour lui des sonates, mais aussi des concerti, pas un, pas deux, pas trois, pas dix, mais bien 37 concertos pour basson nous viennent de Vivaldi, dont deux inachevés, c'est énorme comme répertoire. Alors impossible pour nous d'imaginer vraiment le son qui était celui de ce basson baroque, puisqu'entre-temps, ce qu'on appelle les instruments d'époque et qu'on joue aujourd'hui sont quand même très influencés par les trouvailles de l'âge moderne. Impossible aussi de concevoir la difficulté pour les bassonistes de l'époque de manier cet instrument qui n'avait absolument pas les possibilités de ceux d'aujourd'hui. Mais ce répertoire d'une beauté éblouissante, on peut évidemment l'écouter. Il est un bassoniste merveilleux qui l'arpente inlassablement, qui a pour mission de terminer cette intégrale, les concertos pour basson de Vivaldi, et peut-être pourquoi pas de recommencer. C'est l'immense Sergio Azzolini, bassoniste d'origine italienne, formé en Allemagne, qui est, et c'est absolument rare, aussi brillant dans le répertoire baroque que dans le répertoire moderne, et qui ne cesse, année après année, de s'émerveiller de la richesse de son instrument.
Qu'est-ce que ça change ? On ne le voit pas. Parce que c'est dans l'intérieur. L'intérieur, donc la perce de l'instrument, c'est l'âme de l'instrument, parce que c'est fait en bois. Dans les bassons, c'était presque toujours en érable. Mm-hmm. Et ça bouge parce que l'humidité entre. Il ne faut pas oublier qu'on souffle dedans, et le basson, c'est très long. Et l'humidité, ça reste dans l'instrument. Alors, la perce, ça bouge. Il faut aller avec le mouvement du bois, avec une sorte de flexibilité intérieure, que c'est la physicité d'un instrumentaliste. Donc, le souffle, ça change, parce que l'instrument, c'est très fragile. Et dans une façon moderne, on peut dire, oui, mais c'est aussi un bois. Non, c'est pas vrai. C'est un bois. Dans l'extérieur. Mais toute la partie que ça descend dans l'intérieur, donc la partie fragile qui peut absorber l'humidité, c'est fait en caoutchouc. Donc finalement, l'instrument moderne, c'est une sorte d'instrument de plastique. Et j'adore aussi les bassons modernes. Pourquoi? Parce que cette caoutchouc, c'est la stabilité. Cette perce ne bouge pas. Donc, on sort sur scène, on sait qu'on peut souffler. Et si on tremble un peu, et ça c'est normal, l'instrument fait voir la roue et dit « Pas problème, viens avec moi. » Pilote automatique.
L'énergie presque punk, hein, à la fois punk et délicieusement délicate de ce concerto pour basson en la mineure 497 interprété par le grand Sergio Azzolini accompagné de l'Onda Harmonica. C'est l'une de ces 40 pièces absolument géniales composées par Vivaldi pour cet instrument à qui il fait un peu tout dire en réalité. C'est un répertoire absolument bouleversant où le basson... et parfois dans le sanglot, parfois dans la rage, une rage, encore une fois, presque rock, instrument qui semble véritablement converser avec l'orchestre. C'est sans doute grâce à l'aura magique de toute cette pièce écrite par Vivaldi que quand le jeune Mozart se décide à composer ses premiers concertos pour instruments à vent, eh bien c'est au basson, ça peut paraître étonnant, qu'il se consacre. Il va écrire un concerto pour basson, donc le premier concerto pour instruments à vent qu'il compose, qui nous parvient. On sait qu'il en a probablement, Mozart, écrit trois autres, toujours pour le basson, mais qui ne nous sont pas parvenus, car les manuscrits ont été perdus. Vous allez l'entendre, on n'est plus du tout sur le tumulte vivaldien. Mozart vient chercher avec le basson la délicatesse, la rondeur, la poésie. Il est très loin, vous allez l'entendre, le fameux grand-père un peu maussade et un peu boiteux de Prokofiev, surtout sous les doigts de la bassoniste solo de l'Orchestre National de France, la merveilleuse Marie Boichard. Le basson de Marie Boichard, éminente représentante de l'école du basson français, car depuis l'époque de Mozart et celle de Vivaldi, l'évolution du basson a été très riche, très importante, avec une grande évolution du système de perce, hein, ces clés qui permettent de beaucoup mieux manier, d'être beaucoup plus précis sur les notes. Et tout au long du 19e siècle, mais particulièrement jusqu'au début du 20e siècle, deux systèmes vont commencer à s'installer. Le basson va évoluer de manière parallèle, conjointe, en France et en Allemagne. Le basson français, dont on dit qu'il est l'héritier direct de ce basson baroque, du basson romantique, conserve une grande place, notamment dans nos orchestres français, tandis qu'en Allemagne, bien un autre type de basson se développe. Lui, il est plutôt en érable, alors qu'en France, il est plutôt en bois de palissandre, avec un son à la fois, chez le basson allemand, qui est supposé être plus rond, plus fondable en tout cas, dans les grands orchestres symphoniques qui vont se développer, et ce répertoire symphonique de plus en plus massif, de plus en plus grand et imposant qui se développe au 19e et au 20e siècle. Aujourd'hui, les deux systèmes cohabitent, mais il faut dire qu'à la fin du 20e siècle, en 1988, au moment où le bicentenaire de la Révolution française se précise en France, eh bien, les chefs de conservatoire français se rebellent, s'inquiètent de la prédominance de plus en plus grande du basson dit allemand, qui commence à s'introduire dans les systèmes français, puisqu'à l'époque, quelques grandes institutions culturelles, comme l'Opéra de Nice ou de Lyon, réserve alors des postes à des bassonistes qui joueraient le système allemand. Finalement, aujourd'hui, les deux systèmes cohabitent plutôt bien, notamment en France, où on a gardé une tradition française extrêmement vivace. Dans tous les cas, les deux instruments ont des sons qui, s'ils sont un petit peu différents, restent très fidèles à ce qu'est finalement la philosophie même du basson, grâce aussi à de grands instrumentistes et un vrai renouveau de la composition.
Étymologiquement, le basson ne veut pas dire son grave, comme on le pense, mais son doux. Parce que le nom du basson à l'époque, moyenâgeuse, c'était les dulciades ou doucennes. Donc c'est un son bas, un son doux qui se jouait à l'intérieur des châteaux, parce que c'était, par opposition, je dirais par exemple à la famille des hautbois, qui, bien qu'utilisant une ange double comme nous, jouait à l'extérieur les hautbois, les musettes, pour faire danser les gens, et qui était très bruyant. Donc nous avons, je dirais en général, les instruments avec qui on jouait à l'intérieur des cours, à l'intérieur des châteaux, c'était la viole de gambe, c'était le clavecin ou la harpe. Si nous avons la chance d'avoir un répertoire du passé, c'est parce qu'à l'époque, si on prend par exemple, ne serait-ce que Vivaldi, il travaillait avec des bassonistes, notamment dans son pensionnat de jeune fille. Il avait une bassoniste auprès de laquelle il était très proche, et il a écrit d'ailleurs 39 concertos pour basson. Le concerto de Mozart qui nous reste, parce qu'il en avait 4, a été écrit pour le baron von Dürnitz, qui était le commanditaire et dédicataire de la pièce. Donc si vous voulez, c'est un peu un retour à la tradition de servir les compositeurs actuels, parce que il faut qu'on sache qu'il y a d'excellents compositeurs actuellement.
Le basson génial de l'immense Maurice Allard. Vous écoutez un enregistrement d'époque, un enregistrement qui a été enregistré juste en dessous de moi. On est en train d'écouter le concerto pour basson et orchestre composé en 1958 par Henri Tomasi pour le grand bassoniste français Maurice Allard. Vous écoutez la création de ce concerto pour basson et orchestre. Création, composition, exprès, organisé pour ce grand instrumentiste qui était Maurice Allard. Là, c'est la toute première fois qu'on le donne, mais depuis, il est énormément joué dans le monde entier, notamment dans les conservatoires, où il fait partie des pièces qu'on propose régulièrement au concours. Maurice Allard qui fit partie avec l'immense Maurice André à la trompette, dont je vous avais déjà parlé, de ces fameux quatuors de Maurice qui ont tous, à leur manière, révolutionné ou en tout cas fait avancer la cause des instruments qu'ils jouaient, en l'occurrence pour le basson. Maurice Allard a eu un rôle déterminant puisque c'est lui le premier basson solo de l'Orchestre National de l'Orchestre de Paris pendant jusqu'aux années 1990. Maurice Allard qui va en réalité donner envie à beaucoup de compositeurs de réécrire à nouveau pour le basson, de lui donner la première place. C'est à lui qu'on doit notamment la composition, la création d'un concerto pour basson et orchestre de la part de Marcel Beach, ou encore un immense concerto pour basson et orchestre toujours de Jolivet. Maurice Allard qui a aussi contribué beaucoup à rapprocher finalement le basson allemand et le basson français qu'on opposait beaucoup à l'époque et à qui on doit finalement 40 ans plus tard une forme de réconciliation. Maurice Allard qui a aussi formé la plupart des plus grands bassonistes français de la deuxième partie du XXe siècle, parmi eux Pascal Gallois qu'on écoutait à l'instant, Frédéric Baron ou encore Régis Poulain qui a très longtemps été le basson soliste de l'Orchestre National de France et qui fait partie de ces bassonistes qui ont commencé au XXe siècle, non pas par le basson, mais bien par le saxophone. Vous l'entendez ici, dans ce concerto pour basson d'Henri Tomasi. Le basson ici interprète un petit peu ce que pourrait jouer aussi un saxophone. C'est aussi la modernité que le saxophone a un petit peu volé au basson. Et pourtant, il y a beaucoup de richesse dans ces deux instruments. Régis Poulain, qui a découvert le basson sur le tard et qui, lui, avait bien commencé par les cuivres.
Au départ, j'étais saxophoniste. C'est mon papa qui est musicien amateur, qui m'a initié au solfège et au saxophone. Et je faisais partie d'une harmonie dans le nord de la France qui était dirigée par un monsieur Schaeffer, qui était ingénieur aux usines Béguincé, dans le nord. Et il m'a entendu jouer et il a dit à mon papa, mais il faut absolument qu'il aille au conservatoire, ce gamin. Et je suis rentré au conservatoire de Douai, j'avais peut-être 9 ans, en classe de saxophone. Et à l'époque, les professeurs de saxophone étaient bassonistes. Les petits saxophonistes les plus doués, on les mettait au basson. Donc le professeur de saxophone, il était bassoniste et il voulait absolument me mettre au basson. Et moi, je ne voulais pas. C'est-à-dire, le basson, je ne connaissais pas. Et puis, je voyais ce gros instrument, là, ce grand instrument dans le coin de la pièce, de la classe. J'ai dit non, c'est trop grand pour moi. Alors un jour, je rentre et je vois Monsieur Duhaut avec son basson et qui me dit « Écoute Régis, tu t'assois ». Et il joue pendant 10 minutes, un quart d'heure environ, du basson. Et là, j'étais sidéré, transporté par le son de cet instrument. Je dis « Monsieur Duhaut, je veux faire du basson ».
l'immense, l'immense Youssif Latif, jazzman crucial, jazzman central du XXe siècle. Il est né William Emmanuel Huddleston dans le fin fond du Tennessee en 1920. Après sa conversion à l'islam, il est devenu Youssif Latif. C'est probablement l'un des jazzman les plus ingénieux, les plus novateurs, les plus expérimentateurs du XXe siècle. Youssif Latif qui s'est formé d'abord à l'alto et qui est devenu l'un des plus grands saxophonistes de jazz, mais qui, curieux, après avoir intégré le big band de Count Basie à 20 ans à peine, décide de tout quitter, hein, sa vie de jazzman plutôt droitement écrite, pour commencer des études de composition musicale, mais aussi de flûte, de hautbois. C'est à lui qu'on doit d'une certaine manière l'émergence de ce qu'on a appelé plus tard la world music. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui a introduit dans le jazz, et notamment le free jazz, des éléments d'autres types d'instruments venus d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient, comme l'argol, le chenaï, le shun, le koto, mais bien sûr aussi la flûte traversière, le hautbois. Et ici, vous l'entendez, dans ce magistral morceau Habana, le basson qu'il maîtrisait parfaitement. Car oui, le basson peut avoir toute sa place dans le jazz si on la lui offre. Sachez que le basson est aussi présent dans diverses type de musique populaire, dans le jazz, un peu, pas toujours avec le plus grand bonheur, mais aussi dans une musique que vous connaissez bien, puisque je lui ai consacré plusieurs épisodes, dans la musique populaire brésilienne, où un basson est présent dans l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la samba, une chanson hyper importante pour la culture brésilienne, Preciso Me Encontrar, du fondateur, du grand malandriste Cartola. Écoutez-le.
Preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, vida não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar depois que me encontrar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar.
Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar.
Deixe-me, preciso andar.
Preciso me encontrar, j'ai besoin de me rencontrer, j'ai besoin de me trouver. Immense chef-d'œuvre de Cartola, l'une des plus grandes figures de sambistes des années 30 aux années 60. Il a régné dans les cœurs et dans les oreilles de tous les sambistes de Rio de Janeiro. Il est accompagné ici par l'immense bassoniste Ayrton Barbosa. Car oui, en réalité, il y a une vraie culture musicale classique au Brésil, avec notamment l'immense Heitor Villa-Lobos, qui a beaucoup composé aussi, lui, pour le basson, s'inspirant beaucoup des musiques traditionnelles brésilienne Ayrton Barbosa, qui est donc présent dans de la samba, là où on n'attend pas forcément le basson, et qui a été beaucoup sollicité par à peu près tous les grands créateurs brésiliens du milieu du XXe siècle. On lui doit notamment la mise en musique d'un très très grand poème épique brésilien, Morte e Vida Severina, poème qui raconte l'immigration à l'intérieur des terres des plus pauvres des Brésiliens, ceux qui, après la fin de l'esclavage, se sont retrouvés sans travail. Un poème épique qui raconte cette quête d'une vie meilleure dans ce continent terrible qu'est le Brésil. Morte e Vida Severina, mise en musique par le bassoniste Ayrton Barbosa, ça donne ça.
Essa cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida.
É a conta menor que tiraste em vida.
É de bom tamanho, nem largo nem fundo. É a parte que te cabe deste latifúndio.
É a parte que te cabe deste latifúndio.
Não é cova grande. Cova medida, é a terra que querias ver dividida.
É a terra que querias ver dividida.
É uma cova grande para teu pouco defunto, mas estarás mais ancho que estavas no mundo.
Mas estarás mais ancho que estavas no mundo.
É uma cova grande para tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca.
Mas a terra dada não se abre a boca. É a parte que te cabe neste latifúndio.
É a terra que querias ver dividida.
É a parte que te
cabe. Aí ficarás para sempre livre do sol e da chuva, criando tuas saúvas.
É a parte que te cabe.
Agora trabalharás só para ti, não a meias, como antes, em terra alheia.
Trabalhando nessa terra, tu sozinho tudo empreitas. Serás semente, adubo, colheita.
Trabalharás numa terra que também te abriga e te veste, embora cobrindo o Nordeste. Terás de terra completo agora o teu pasto. E pela primeira vez, sapato.
Génial Vida Morta Sevelina, mise en musique par Ayrton Barboza avec le concours du très grand Chico Buarque. Vous avez vu que ça fonctionnait extrêmement bien, ce basson sur de la musique populaire et sur le baïen en brésilien. Vous entendez ici The American Defense, un concerto composé il y a 3 ans à peine par un Américain, Adam Conrad, interprété par le bassoniste Trent Jaxob pour un concerto pour basson électrique. Vous l'entendez, ce son est à la fois plus rond, plus électrique, et c'est peut-être l'une des pistes pour le futur du basson dans la musique à la fois symphonique mais aussi moderne que vous entendez là. Car oui, le basson a évidemment un répertoire déjà glorieux, mais il peut lui aussi expérimenter, il peut aussi trouver d'autres voies. On peut aussi revisiter le passé pour donner au basson toute la place qu'il mérite. C'est ce qu'a entrepris notamment la jeune bassoniste française Lola Descours dans un superbe disque où elle décide de transposer du répertoire notamment russe pour piano au basson. Elle le fait par exemple ici dans l'étude en opus 8 numéro 11 pour piano d'Alexandre Scriabine, grande pièce du répertoire du piano russe à qui elle l'adapte pour piano et basson et où elle essaye de trouver avec le basson, un vibrato, une intensité dans ce répertoire-là que le piano seul ne permet pas. Écoutez, ça fonctionne extrêmement bien. L'étude opus 8 numéro 11 de Scriabine, qui était initialement pour piano, transposé pour piano et basson. C'est le basson de Lola Descours, qui avec son vibrato rend la mélodie encore plus intense qu'elle ne l'était dans la partition originale. Et c'est une initiative qu'on salue. Pour se quitter, peut-être saluons une initiative vraiment carrément plus osée, celle du groupe Orbi. Il s'appelle Orbi pour The Oscillating Revenge of the Background Instrument, un groupe qui s'appelle donc La Revanche Oscillante des Instruments du Background, groupe formé par notamment un bassoniste, un contrebassiste, tous ces instruments à qui on ne donne jamais le lead et qui pourtant le méritent. Écoutez-la, cette revanche, elle est à la fois délicieusement délicate, mais aussi assez énervée.
Thank you.
Fight Fire with Fire, combattre le feu par le feu, tube mythique de Metallica, repris ici par Orbi. The Oscillating Revenge of the Background Instruments, la revanche oscillante, on pourrait même dire scintillante, des instruments du background. Ici, vous entendez le basson, l'orgue Hammond et la guitare, ainsi la contrebasse, pardon, ainsi que la batterie de quatre merveilleux musiciens. Au basson, c'est Bran van Siebeck, qui donc ont pour ambition de pratiquer une musique qui se situerait à la frontière de la musique symphonique, du métal et de la musique de chambre. On aime beaucoup cette initiative et on la soutient. C'est la fin de cette série musicale qui a été réalisée ce dimanche par Luc Jean Reynaud et mise en onde par la délicieuse Marie-Claire Oumabadi. C'est Lou que vous viez, qui était comme toujours à la préparation et qui nous a trouvé de jolies archives. N'hésitez pas à podcaster et à réécouter cette série musicale sur toutes les bonnes applications de podcast, mais on préfère celle de Radio France.